franceinter.fr.
Jean-Louis Borloo est votre invité, Léa Salamé.
Bonjour Jean-Louis Borloo.
Oui, bonjour.
On a deux vies, la deuxième commence le jour où l'on se rend compte que l'on n'en a qu'une. C'est Confucius qui dit ça. Vous, votre deuxième vie, c'est l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Parce que vous vous ennuyez en Europe, en France?
Non, c'est pas l'Afrique, c'est la lumière et l'énergie. La lumière et l'énergie, c'est le droit de l'homme universel, fondamental. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie, c'est l'accès aux autres droits fondamentaux. Le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'accès à l'eau, notamment l'eau potable, le droit à l'emploi, le droit à l'autosuffisance alimentaire. Pour exercer tous ces droits-là de l'humanité, vous avez un dénominateur commun, c'est l'eau, c'est l'énergie, l'électricité.
Voilà. Votre
ça,
projet,
c'est le droit. Et donc,
votre grand
et donc
projet,
il
c'est
n'est d'électrifier. Pas imaginable qu'il y ait des parties du monde qui n'aient pas d'accès à l'électricité. Alors, il y a juste à côté de chez nous un continent, l'Afrique, 1,1 milliard d'habitants, 700 millions de personnes qui n'ont pas d'accès à l'électricité et à la lumière.
Et c'est votre grand combat.
Oui, alors l'Afrique et les autres, Haïti, là, ouais. Mais c'est vrai que c'est l'Afrique. En fait, ce qui est terrifiant dans cette histoire, c'est qu'on sait très bien que lorsque vous avez 800 millions de portables en plus, on assiste à un nomadisme invraisemblable. La jeunesse d'Afrique est partie vers les points de lumière, des ports africains éclairés, des capitales éclairées, mais évidemment la péninsule arabique, évidemment une petite partie de l'Inde, évidemment l'Europe.
Comment vous dites, si on leur met la lumière, ils resteront là où ils sont.
Parce que vous connaissez des gens qui ont vraiment envie de partir de chez eux, comme ça. Le réfugié climatique, le réfugié qui, le jeune qui va vers la lumière, qui va vers une forme d'avenir, c'est le même. Moi, je ne sais pas le différencier. Comment pouvons-nous considérer que nous avons à côté de nous, à 12 ou 14 kilomètres, selon la façon de compter, un continent qui est dans ce bouillonnement et qu'on continue à s'occuper juste de nos petites affaires? D'autant que le plus horripilant, c'est que excusez-moi, l'électricité, il n'y a rien de plus bête à faire. Je veux dire, technologiquement, ça pose aucun problème. La Chine l'a fait, la Russie l'a fait, la France l'a fait.
Il faut de l'argent.
Il faut une organisation. Et donc, il faut un accord unanime des chefs d'État africains.
Que vous avez obtenu.
Le 15 juin, à l'unanimité. Voilà. Je suis tous allé les voir en disant, écoutez, c'est faisable, c'est possible. Organisez-vous. Nous, on fera notre part de boulot de l'autre côté. Donc, l'instrument a été créé le 15 juin à Johannesburg. Le Parlement panafricain qui est tellement en attente de nos positions, se déplace de Johannesburg, demain va faire son appel
au monde, à l'Assemblée nationale,
à l'Europe, à la France.
Oui, France.
Pourquoi en France? Parce que il y a la COP21.
Alors justement, la COP21.
Alors, qu'est-ce que c'est que la COP? Ça doit pas être une affaire, excusez-moi, de spécialistes ou de climatologues. C'est l'affaire des gens. Or, il peut pas y avoir... On ne peut pas continuer à parler de trajectoire et de 100 milliards à terme. Non, le besoin, il est très limité, payé par les grands émetteurs. 4 à 5 milliards de dollars par an pendant 10 ans seulement, qui permet de fédérer l'ensemble des liquidités.
Parce que vous dites, Jean-Louis Borloo, vous dites, parce que nous, on parle de la COP21, on parle de ce fonds vert, de ces 100 milliards que les pays s'engagent à donner. Vous vous dites, ils donneront jamais rien.
Non mais
c'est du fonds argent.
Non mais on va comptabiliser les financements de la Banque de Chine pour construire quelque chose au Brésil. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est les vrais pauvres. Alors, pas de pauvres. Les vrais pauvres, c'est les premières victimes du réchauffement climatique et ils n'ont pas d'énergie pour répondre à tout ça. Bon, donc c'est les vrais pays pauvres, le G77 en clair, ils demandent pas grand-chose, ils demandent pas tout ça, ils se sont organisés, ils demandent un coup de main très provisoire, un peu comme l'ont fait les États-Unis en 47 hein, quand on est sorti de la guerre.
Marshall.
Bien sûr.
Ils demandent ça, ils se sont mis d'accord le Parlement africain, tous les pays africains parlent d'une même voix, ils demandent 4 à 5 milliards d'euros.
Oui, absolument.
De dollars. Comment être sûr que l'argent sera bien utilisé? C'est aussi l'autre question qu'on pose sur l'Afrique. Parce que vous dites les Africains, mais il y a toujours la question de la bonne gouvernance sur les Africains. Comment on sait que l'argent sera bien utilisé? Comment on sait qu'il ne sera pas détourné?
Vous voyez, on commence pas par est-ce qu'il faut qu'on le fasse? Est-ce que c'est vital pour nous? Est-ce que c'est notre relais de croissance? Est-ce que c'est notre risque majeur de confrontation? Parce que on parle de l'immigration, de guerre, des réfugiés, de guerre de Syrie aujourd'hui. Mais le vrai problème massif, c'est évidemment ce sujet-là. Donc, organisons-nous. Il faut une instance panafricaine, qui se gère comme la Banque africaine de développement, qui est parfaitement bien gérée, avec un suivi international. Mais j'insiste. C'est lié au climat. C'est-à-dire que ce fonds, il faut qu'il soit financé par les grands émetteurs de CO2, ceux qu'ont signé le protocole de Kyoto, au prorata de la population. Un chiffre pour rassurer vos auditeurs. Pour l'Europe, la première année, ça représente 1 milliard 200 millions. Moins que le fonds de développement européen qui n'est pas utilisé pour les projets africains. Donc c'est un problème d'organisation et de fléchage.
Jean-Louis Borloo, François Hollande était à l'Assemblée Générale des Nations Unies mi-septembre. À la tribune, il a appelé à donner plus à l'aide au développement, notamment pour l'Afrique. Il rentre à Paris, une semaine après, on apprend que le budget 2016 de la France prévoit une baisse de l'aide au développement. Est-ce que c'est normal ?
Je ne commande pas l'actualité politique puisque j'essaie de fédérer. Bon, ce que je dis à tout le monde, y compris à François Hollande... Attendez, à Jean-Claude Juncker. On fait le plan ou on le fait pas ?
Ils vous disent quoi ?
D'accord. Eh bien, je pense qu'il va y avoir une réunion en début de semaine prochaine qui va décider. Il va y avoir un sommet à Malte dans 10 jours. Sommet Europe-Afrique. Comment traiter le problème des migrations à l'origine ? Le mot énergie n'est même pas dans le document. Donc je dis, attendez, on ne va pas recommencer à faire des déclarations. Le 1,8 milliard prévu, vous le mettez dans l'agence faite par les Africains. C'est un plan fait par les Africains pour les Africains. Donc, on le fait, on le fait. Moi, je ne dis pas qu'on peut pas modifier tel ou tel point. La question centrale, stratégique de l'avenir de l'Europe, de la paix en Europe...
Plus important encore que la COP21, ce que vous dites,
Mais il faut que ça soit juste... Attendez, il faut que ça soit décidé par les chefs, ceux avant, et applaudi par la COP21. Il faut que ça soit le résultat tangible et concret. Les grands débats, 2, 3 degrés, 3,5, clause de revoyure, clause de révision, trajectoire, inclusive, je connais tous les mots. Non mais c'est formidable comme mobilisation. Mais c'est pas là que ça se décide. Ça se décide avant, par les chefs.
Jean-Louis Borloo, une question avant de vous laisser partir. Le député du Nord, que vous avez été dans une autre vie, rappelez-vous, il y a quelques mois, quelques années, est-ce qu'il s'inquiète de voir Marine Le Pen prendre la région ?
Je vous ai dit que depuis que j'avais renoncé à mes mandats, et depuis que je suis lancé dans cette opération qui me paraît vitale, je ne commentais pas ni celle-là, ni aucun
le
sujet citoyen
Borloo
politique.
N'a pas de...
Le citoyen Borloo a ses convictions personnelles.
Là, le repli identitaire de l'Europe,
je vous dis,
les tourments identitaires de l'Europe.
Eh bien madame, répondre au populisme, c'est faire un grand projet. Un grand projet sur la lumière. C'est la lumière qu'apporte la démocratie. Que nos enfants soient fiers de nous, qu'on fasse ce grand projet avec nos frères d'Afrique.
C'est comme ça qu'on répondra à Marine Le Pen.
Mais évidemment, mais c'est que c'est notre lait de croissance, c'est la paix. Mais en plus, ça a une gueule folle. Humainement, c'est formidable. C'est ça qui tuera le populisme.
Jean-Louis Borloo était notre invité. Belle journée à vous.
Merci à vous, Léa Salamé.